C'est bien d'être dans la grâce du Seigneur. J'étais là tout à l'heure en chantant toutes ces cantiques et je me suis dit, mais Seigneur, c'est vrai, quand on voit quand même la possibilité d'être unis par l'Esprit de Dieu, de créer une grande famille, je crois que quelque chose pour nous des croyants qui sont des nouveaux-nés en Jésus-Christ, nous sommes une grande famille. Nous avons un amour, un respect et un désir pour être avec les autres. Ça ne va pas dire que ce n'est pas toujours facile. Hein. Je sais que, hélas, on a eu 3 garçons, nous aussi. Et parfois, ma femme jouait le piano. On avait parfois un qui était pratiquement sur le pédale de piano. En dormant pendant le culte, des choses comme ça, Monique peut se souvenir de ces moments. Assis, bouleversée, vivante. Mais c'est une grande famille dans le Seigneur. Et je vous assure, parfois, je suis allé dans d'autres églises et ça me pose quand même des questions de voir, mais il y a beaucoup de monde peut-être, ou peu de monde, mais ceux qui sont là, est-ce qu'ils se sentent vraiment comme famille? Grâce au Seigneur, je remercie le Seigneur vraiment pour cette partie de notre vie en Jésus-Christ, que nous faisons part d'une famille de Dieu qui est plus grande simplement que nous-mêmes, mais qui contient le monde entier, qui touche le monde entier. Il y a des mondes partout qui connaissent Jésus-Christ. Et quand on entend même sur la radio, sur la télévision, parfois des gens qui font des gestes pour remercier Dieu, ça m'a touché à mon cœur. J'ai dit, mais Seigneur, est-ce qu'ils sont à toi? Je prie pour eux, je demande Seigneur que tu le bénisses, Seigneur, que tu le fortifies dans leur démarche, où ils se trouvent, qui se trouvent parmi nous, des vrais croyants en Jésus-Christ, la famille de Dieu. En pensant d'être dans la famille de Dieu, je voudrais commencer avec des versets bibliques, un texte qui se trouve en Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît, parce que j'aimerais bien que vous puissiez relire ces passages plus tard. C'est très important, à mon avis, toujours d'avoir une Bible, parce que ça vous donne l'occasion de lire le verset pour vous-même et de recevoir la parole de Dieu vous-même et pas simplement à travers mon accent perdu quelquefois, même difficile à comprendre. Luc chapitre 17, verset 11, commence verset 11. Alors il se rendit à Jésus, à Jérusalem. Jésus allongea la frontière entre la Samarie et la Galilée. À l'entrée d'un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtaient à distance. Et ils se mirent à supplier à haute voix, « Jésus, maître, aie pitié de nous !» Jésus les vit et le dit, « Allez vous montrer au prêtre. » Pendant qu'ils allaient, il fut guéri. L'un d'eux, quand il se rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à pleine voix. Il se prosterna aux pieds de Jésus, face contre terre, et le remercia. Or, c'était un Samaritain qui était guéri. Jésus a dit, « Ils sont bien 10 qui étaient guéris, n'est-ce pas? Où sont donc les 9 autres? » Il n'est donc retrouvé personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu. Puis s'adressant à Samaritain, il lui dit, « Relève-toi et va, parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé. » Ces versets sont très bouleversants dans un sens, de voir qu'il y avait 10 qui étaient guéris, mais qu'il y avait un seul qui était revenu à la rencontre de Jésus personnellement. Peut-être il y a quelqu'un parmi nous ce matin. Vous êtes parmi nous tous. Vous êtes peut-être né dans une famille des croyants, peut-être pas. Peut-être vous avez pratiqué, vous avez pu assister à d'autres réunions dans d'autres églises. Même vous avez peut-être expérimenté des guérisons physiques des gens qui étaient malades. Vous avez prié pour les gens. Vous avez demandé à Dieu d'avoir pitié auprès de quelque chose ou quelqu'un d'autre dans la famille, de vous aider dans votre famille. Et donc, je crois que travers ces versets, on peut être quand même attiré par des choses ensemble qui peuvent être importantes pour nous d'y réfléchir. Et je prie pour vous et je prie pour moi pendant que nous confions, nous tous, dans le Seigneur. Jésus est en train, actuellement, dans ce verset, Jésus est en train de retourner à Jérusalem pour la dernière fois pour sa crucifixion. Il a allongé la terre entre la frontière entre la Samarie, comme il est écrit, et la Juda. Et en descendant là, il était confronté à l'entrée d'un village, confronté avec les 10 lépreux. Il faut dire déjà que Jésus, du fait qu'il était en train de retourner à Jérusalem pour sa crucifixion, on peut dire quand même que c'est un exemple d'obéissance. Dans un village plus loin, beaucoup plus tôt, Jésus était refusé même d'avoir un logement pour passer la nuit dans une ville de Samaritaine. Parce que justement, il est en train d'aller à Jérusalem. Ils ont compris que Jésus est en voyage pour aller à Jérusalem et on lui a refusé une chambre de la nuit pour passer la nuit. Ça s'est trouvé en chapitre 9 du livre de Luc, l'évangile de Luc. Donc, Jésus a eu d'autres expériences dans sa vie où il n'était pas bien accueilli parmi les Samaritaines. Aussi, peut-être en arrivant devant ce village, face à ces 10 malades, lépreux, qui criaient après lui, peut-être il se demandait, mais alors, qu'est-ce qu'il veut vraiment? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Vous savez, parfois dans nos vies, Dieu nous demande de le suivre. Parfois, Dieu nous donne des commandes à suivre. Et je crois que parfois, c'est à nous d'être obéissants à notre Père céleste. Même parfois, qu'on se sent rejeté par les autres. Même parfois, qu'on est face aux choses qu'on ne sait pas vraiment ce qui nous attend. Jésus est un exemple d'obéissance à son Père. Ça peut être une question pour nous ce matin. Est-ce que nous sommes obéissants à la volonté de Dieu dans notre vie? Deuxièmement, nous voyons la guérison miraculeuse. Cette guérison est arrivée à tout le monde. Ils étaient tous malades. Jésus, il avait la grâce pour tous. Donc, le fait d'être guéri n'était pas une preuve ou une garantie à ce moment-là d'une relation personnelle avec Dieu. La Bible nous dit que la pluie tombe sur les justes et les non-justes. Du fait que vous êtes là ce matin, que je suis là, n'est pas une garantie qu'on est sauvé. Or, parfois, on aime bien, n'est-ce pas, d'être avec des chrétiens, d'autres croyants, pour être encouragé. Mais parfois, peut-être on peut faire une erreur de nos pensées, dans nos pensées d'imaginer, oui, j'ai prié, Dieu il a répondu à mon prière, oui, je crois en Dieu, j'ai prié à Dieu, mais qu'est-ce que vous priez à Dieu? Combien de fois, je demande aux gens, parfois, ils disent certaines choses qui me donnent l'indication qu'ils sont croyants, je dis, ah, vous êtes croyants, ah oui, j'ai prié à Dieu tout le temps. Mais les 10 lépreux, ils priaient tous à Dieu, à Jésus-Christ. On lui a même appelé maître, qui était un terme pas bien accepté pour Jésus vis-à-vis la culture à ce moment-là où il vivait. On a reconnu comme un enseignant, un spirituel, très important dans un sens. On a reconnu Jésus, maître. Et même ils ont crié haute voix, « Ayez pitié de nous !» Parfois, n'est-ce pas, on entend des exclamations des gens qui ont vu des choses extraordinaires. « Oh mon Dieu !» Est-ce que c'est une façon de s'engager avec Dieu ou est-ce que c'est simplement une façon de reconnaître que Dieu existe? Vous savez, en Jacques chapitre 2, verset 19, la Bible nous dit « Le diable croit en Dieu, mais eux, ils tremblent. » Quelle est votre disposition vis-à-vis de Dieu ce matin? Quelle est notre disposition vis-à-vis de Dieu? Est-ce qu'on accepte les paroles? Oui, je crois en Dieu, je crois en Dieu. Mais quelle est vraiment notre disposition vis-à-vis de Dieu? Peut-être il disait, qu'est-ce qu'on a à perdre? Nous, on est isolés de notre famille, on est isolés de la société, nous ne pouvons pas rentrer dans le village. Tout le monde s'en fiche de nous, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a rien à faire. Ça me rappelle de l'histoire des mineurs qui étaient enterrés dans la mine récemment au Chili. On dit Chili-Chile. Chili. C'est les Chiliens qui disent Chile, je crois. OK. De toute façon, ils étaient enterrés dans cette mine. Peut-être vous connaissez pas l'histoire, mais c'était le 5 août. La mine était effondrée sur eux. Ils étaient tous plus de 600 mètres dans un trou. Aucun moyen de sortir. Pendant 3 semaines... Ils ne savaient même pas si quelqu'un savait qu'ils étaient là, qu'ils ont fait quelque chose, qu'ils vont faire quelque chose pour le secourir. 17 jours. Pendant ce moment-là, sans contact avec le monde, ils se organisaient entre eux. Et pendant cette période-là, ils avaient très peu de l'eau et ils mangeaient chacune, par jour, 2 cuillères de thon et 1 biscuit. C'est tout ce qu'ils pouvaient faire, tout ce qu'ils savaient. Enfoncé dans la terre, ne pouvez pas sortir. Quel est votre cas aujourd'hui? Quel est notre cas aujourd'hui? Quel était notre cas? Est-ce qu'on se rend compte, en venant dans ce monde, on est perdu? Au bout d'un moment, on se rend compte, la parole de Dieu nous dit, mais vous êtes séparés de moi? Faire attention. Il y a des signaux, il y a des choses, il y a des signes que j'ai faits, mais vous êtes perdus, vous êtes séparés de moi. Est-ce que vous vous rendez compte? Les lépreux, ils étaient séparés de leur société, ils étaient coupés du monde d'avoir une relation avec des autres. Donc, Jésus leur a dit, ah, je veux dire une chose, allez, présentez-vous au prêtre. Alors là, on savait bien que l'enseignement biblique dans l'Ancien Testament, le Lévitique, nous enseignait que c'était leur pratique que si quelqu'un était malade comme lèpre, ils étaient obligés de se présenter au prêtre pour vérifier le guérison au cas où il y était. Mais normalement, c'était une maladie qu'on ne se guérissait pas. Donc, ils restaient toujours isolés et séparés du peuple. Sans avoir contact. Et en plus, ils étaient obligés de crier, je ne sais pas qu'ils disaient, crier une phrase qui disait, je ne suis pas propre, je ne suis pas propre. Ça veut dire, vous n'avez pas, personne n'a le droit de m'approcher, personne n'a le droit de m'toucher, je ne suis pas propre. Ils étaient obligés de crier ça tout le temps, tout le temps. Mais à ce moment-là, ils criaient à Jésus, Maître, Jésus, Ayez pitié de nous. Aide-nous. Parfois, c'est la seule chose qu'on peut le faire. Crier à Dieu, on ne sait pas exactement ce qu'il faut dire, comment il faut le demander, mais parfois on crie à Dieu, ayez pitié à nous. Mais Jésus leur a dit, allez, présentez-vous au prêtre. Vous savez, parfois Dieu nous demande, peut-être vous êtes en position aujourd'hui, vous êtes vraiment dans votre cœur aujourd'hui, dans votre vie, vous êtes en train de prier à Dieu, Dieu aide-moi. Dieu, donne-moi le conseil. Dieu, aide-moi à savoir quoi faire dans mon situation, dans les circonstances où je me vivre. Mais au fond de vous-même, peut-être Dieu vous a déjà donné le conseil. Peut-être Dieu vous a déjà demandé de faire quelque chose. Peut-être il y a quelqu'un parmi nous ce matin, vous êtes venu plusieurs reprises, vous n'êtes pas membre d'une église, vous n'êtes pas membre d'une communauté quelque part, vous n'êtes pas baptisé au nom de Jésus-Christ, vous êtes bien religieux peut-être. Dieu vous a déjà demandé, faites quelque chose comme un engagement avec moi et avec les autres. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que nous attendons de Dieu? S'il nous a déjà donné des conseils, on ne fait rien. Pourquoi voulez-vous qu'on vous donne d'autres conseils? Pourquoi voulez-vous qu'il vous donne d'autres pas à faire si on n'est pas prêt de prendre le pas qu'il nous a déjà désigné? Parfois, on n'est pas obéissant, comme l'exemple de Jésus. Jésus savait qu'il allait mourir sur la croix. Mais il a pris les décisions, malgré les confrontations, malgré les difficultés dans sa vie, les difficultés que ça posait, il a pris l'obéissance, le chemin d'obéissance, de suivre les désirs de son Père. Peut-être il y a quelque chose qui nous empêche d'avoir une bonne relation avec quelqu'un d'autre. Peut-être Dieu nous appelle, peut-être Dieu nous demande d'avoir la pardon, d'exprimer la pardon ou la repentance envers quelqu'un d'autre, que ce soit dans la famille, même que ce soit au boulot. Peut-être on a dit les choses qu'il ne fallait pas dire, peut-être on a réagi d'une façon qu'il ne fallait pas. Et Dieu a planté une petite pensée dans notre vie, dans notre cœur, en disant, ce n'est pas correct, vous devrez vous excuser auprès de ces personnes. Qu'est-ce que nous attendons parfois d'être obéissants à Dieu? Et ils étaient tous demandés de faire la même chose. Vous savez, parfois, on peut bien, oui, mais vous savez, ça ne m'intéresse pas d'être comme les autres. Je ne vous demande pas d'être comme les autres. La Bible ne demande pas d'être comme les autres. La Bible nous demande d'être obéissant à Jésus-Christ. Parfois, notre ego et notre arrogance nous mettent en comparaison avec les autres. Et si on se compare les uns avec les autres, c'est une idée d'ego. C'est une idée d'arrogance. Parce que la Bible ne nous appelle pas d'être comme les autres. Il nous appelle d'être en obéissance avec lui. Finalement, nous voyons la foi mise en évidence. Ils étaient tous guéris, mais c'était un seul qui est venu à Jésus de son retour. Est-ce que vous avez bien remarqué qu'il disait dans ce verset-là, il est revenu sur ses pas pour retrouver Jésus, il a fait plusieurs choses. Il se prosternait à Jésus. Il se prosternait et se prosternait à ses pieds. Face contre terre, il le remercia. D'abord, il se humilie. Je parlais tout à l'heure de s'excuser auprès de quelqu'un d'autre. Alors, si vous trouvez difficile de vous excuser auprès d'un semblable, comment imaginez-vous que vous pouvez aller auprès de Dieu en s'excusant? Vous n'avez jamais pensé à cela? Si nous n'avons pas la force et la liberté d'aller auprès de quelqu'un d'autre qui est semblable de nous, un autre être humain, comment imaginez-vous que nous avons quand même imaginé la liberté d'aller auprès de Dieu pour s'excuser en demandant le pardon? Je vous laisse y réfléchir. Ça me pose aussi des questions. Il se prosternait, il se humiliait lui-même devant Jésus. Devant Jésus, pas devant tout le monde, pas devant les autres, pas devant l'Église, pas devant le prêtre. Il se humiliait devant Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Il a même mis sa face contre terre. C'est une indication de servitude. Il voulait être un servant. Il voulait s'humilier, de se placer devant Jésus en disant, « Je suis à ton service, maître. » Est-ce que vous êtes au service de Jésus aujourd'hui? Est-ce que nous sommes au service de Jésus aujourd'hui? Il a remercié. Parfois, il est facile de dire « Oui, je suis croyant. » Mais notre vie n'amène pas aucun exemple de ce qu'on fait, la vie, la réalité de Jésus en nous. On ne parle pas de la vérité de Jésus parfois. On n'exprime pas notre foi en Jésus parfois parce qu'on ne veut pas. On n'est pas comme le lèpre qui était malade avec le lèpre, comme lèpre qui craignait pas de tout ce que les autres pensent. Oui, guéris-nous, mais quand on est guéri après nos péchés, oh, on ne dit plus rien. Et parfois, c'est une grande tentation de ne plus rien dire. On craigne ce que les autres vont nous dire, vont nous apprendre. Je crois que Jésus attendait les 9 autres. Il a bien posé les questions, mais n'est-ce pas, il y avait 10? Jésus nous attend tous de le suivre. C'est bien de temps en temps d'entendre le témoignage des uns des autres, une là, un là, là, mais est-ce qu'il y a des témoignages de nous tous? Est-ce que nous avons tous quelque chose à apporter aux autres? Pas pour nous mettre en avant des autres, mais pour nous mettre devant les autres en disant, je suis sauvé par la grâce, l'amour et le sang de Jésus. Qu'est-ce que nous attendons de Jésus? Parfois, nous crions à Jésus comme les lèpres. Seigneur, guéris-nous. Mais parfois, on se trompe de le vrai besoin spirituel dans notre vie. Parfois, nous cherchons la réponse à une certaine difficulté, comment répondre à quelqu'un d'autre, mais parfois, Dieu veut nous guérir au fond de notre cœur, de ne pas craindre le monde. De ne pas répondre n'importe comment au monde, c'est pas ça non plus. Mais de ne plus craindre le monde et ce que le monde potentiellement peut faire à nous. Mais être engagé avec lui. Finalement, je voudrais terminer avec ce pensée qui m'a beaucoup frappé, en imaginant. Vous vous souvenez, quand celui qui est revenu pour remercier Jésus, Jésus a dit, « Ah, relève-toi, Maintenant, tu peux vivre ta vie. Allez, ta foi en moi t'a sauvé. C'est la parole de Jésus. Il n'a pas dit, alors, quelle est l'origine de ta famille? Il n'a pas demandé, mais alors, tu n'as jamais fait un péché dans ta vie? Tu es malade comme lèpre, alors, qu'est-ce que c'était comme péché dans ta vie? C'était l'enseignement à ce moment-là. On était malade comme ça, quelqu'un a eu un péché dans la vie, et surtout celui qui était malade parfois. Jésus n'a pas demandé, quel est votre péché? Est-ce que nous sommes prêts nous-mêmes de nous confier à Dieu? Parfois, nous devons confesser nos péchés. Je ne contredis pas ça. Mais je dis, pour avoir l'accès à Jésus, il est prêt et il apte de nous accepter tous tels que nous sommes. Quelle est votre disposition du cœur aujourd'hui? C'est une décision individuelle. Il ne faut pas attendre quelqu'un d'autre. Il ne faut pas attendre un autre jour. Il ne faut pas attendre une autre idée. Si vous savez exactement ce que Dieu vous demande de faire aujourd'hui, faites-le. Faites-le. Prions, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce moment que tu nous donnes d'y réfléchir sur ta parole. Seigneur, je prie que tu prennes ces versets, que tu prennes ta parole, que tu parles à notre cœur comme toi seul tu peux le faire. Dans la puissance, dans la vérité et dans la certitude de Jésus, je te prie. Amen.